Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, j'imagine que vous allez bien parce que c'est vendredi, c'est le week-end qui s'en vient. On l'a bien mérité, grande et grosse semaine. Aujourd'hui, c'est bon pour la santé, la dernière de la semaine sur Canal M. Je vous parle de peut-être un des plus grands irritants de la vie de couple. Vous serez sûrement d'accord avec moi, le ronflement. Lorsque ça arrive chez notre conjoint ou notre conjointe, ça peut avoir plusieurs impacts. Ben oui, évidemment, ça peut nuire à notre sommeil, mais ça peut révéler également d'autres soucis de santé peut-être plus importants chez la personne qui ronfle. On va en parler tout à l'heure avec Jocelyne Gadebois, elle qui sera là pour nous donner des trucs pour remédier au ronflement, mais pour voir aussi qu'est-ce que ça pourrait indiquer sur nos conditions, notre bilan de santé. Et puis aussi, s'occuper d'un enfant qui est malade ou qui est très handicapé, ça change beaucoup de choses dans la vie, vous l'aurez deviné. Au Canada, c'est 155 000 enfants âgés entre 5 et 14 ans qui vivent avec un handicap. Donc, on s'imagine que ça touche énormément de familles. Et pour plus de la moitié de ces parents-là, ça se passe dans des situations qui deviennent un peu précaires, que ce soit du côté de la situation professionnelle, que ce soit du côté personnel, social, ça touche plusieurs aspects. L'organisme sans but lucratif qui a été créé par Nathalie Richard, l'Étoile de Pachot, tente de répondre aux besoins des parents qui viennent tout juste là, d'avoir un diagnostic de handicap ou de maladie grave pour leur enfant. On lui parle à l'instant. Nathalie Richard, bonjour.
Bonjour.
L'Étoile de Pachot, ça a été inspiré par votre histoire personnelle, suite à la naissance de votre fils David, lui qui est né, en fait, ce qui s'est passé à la 32e semaine de grossesse, un AVC au niveau même de l'utérus.
Oui.
Tout d'abord, j'imagine qu'on doit passer par un deuil. Lorsque ça nous arrive, il y a la naissance d'un enfant, le mélange de joie, de tristesse, de colère, sentiment d'injustice aussi,
absolument,
j'imagine.
Oui.
On arrive comment à accepter tout ça?
C'est un long cheminement. En fait, pour ma part, au début, j'étais enceinte, donc ça a été le choc avant même qu'il soit né. Donc, je savais qu'il allait avoir quelque chose de pas correct à la naissance. C'est toute une série d'émotions. Quand vous parlez du deuil, il y a sept étapes au deuil. La première étant le choc.
Ouais.
Celle-là est très rapide. Mais après ça, les autres étapes, tout dépendant de notre personnalité, de comment on est élevé, nos valeurs, ça peut être très long de traverser chacune des étapes. Il y en a pour qui ils finissent jamais de traverser aussi les étapes.
Ouais.
Puis je vous dirais que dans mon cas, ça s'est passé peut-être sur 3-4 ans. Mais je pense qu'on finit jamais de cheminer dans ce milieu-là. Il y a toujours des mauvaises nouvelles qui s'ajoutent au cours des années, donc on n'a jamais fini. Mais je pense que le plus important pour s'en sortir, c'est de se reconstruire. C'est la dernière étape du deuil, puis ça prend une reconstruction. C'est sûr qu'il faut accepter, c'est l'étape juste avant, mais il faut, à la fin de tout ça, se reconstruire. Peu importe la façon qu'on le fait, il faut retrouver une raison de vivre. Parce que c'est sûr que quand on se fait annoncer une nouvelle comme ça, c'est toute la vie qui s'effondre. On n'a plus aucun repère. Mm-hmm. Personne n'imagine ou rêve d'avoir un enfant handicapé gravement malade. On ne sait pas à quoi s'attendre. Puis les médecins ont beau nous donner des pronostics puis des idées d'eux, ils ne savent pas non plus. Donc, on se retrouve vraiment propulsé dans un monde qu'on ne connaît pas, que peu de monde connaissent. Et puis, c'est débrouille-toi, passe à travers tout ça sans y laisser ta peau. Tu es là pour ton enfant à 300% tout le temps, jour et nuit. Donc, c'est une très longue route. Et puis, c'est long, justement, avant de se rendre à l'acceptation et la reconstruction.
Oui. Là, pour son enfant, à 300%, mais pas toujours là pour soi-même,
mais non.
Pour le conjoint, la absolument. Conjointe, les autres enfants.
C'est clair.
On fait comment pour gérer tout ça avec l'entourage qui suit ou pas?
On est en mode survie pendant des années, en fait. C'est ça qui arrive. Quand on vit avec quelqu'un de malade, que ce soit un enfant, je pense, un parent qu'on s'occupe, qui a le cancer ou un conjoint... moi, je parle vraiment en tant que maman d'un enfant handicapé gravement malade. On s'occupe de cet enfant-là à temps plein. Là, c'est jour et nuit, comme je disais. On est souvent, souvent à l'hôpital, hospitalisation, chirurgie. Donc, c'est clair qu'on s'oublie beaucoup. On devient la dernière personne sur notre liste des priorités.
Ouais.
On essaie de passer le conjoint quelque part là-dedans. Souvent, le conjoint aussi ne chemine pas au même rythme que nous, dans ce deuil-là. Donc, on se perd de vue. S'il y a d'autres enfants, moi, j'ai pas d'autres enfants, donc je peux pas vraiment parler pour eux. Mais ce que j'ai vu avec l'Étoile de Pachot, c'est que les parents disent beaucoup que c'est très difficile pour la fratrie de partager le temps. Ils se sentent souvent coupables de pas donner assez aux autres. Ça les fait vieillir, les enfants, très, très rapidement, pas toujours pour le mieux non plus. Puis les parents se retrouvent avec un stress énorme de gérer tout ça, finalement, puis d'essayer de donner un peu de temps à tout le monde. Donc, le parent, en tant que tel, oui, est à la liste, à la fin de sa liste des priorités, puis il s'oublie énormément. C'est ce qui fait que la plupart des parents finissent par avoir une dépression assez rapidement, prendre des anti-anxiogènes, c'est très, très difficile.
Parce que oui, il faut se gérer soi, gérer l'enfant, gérer le couple, mais des fois, c'est les commentaires des autres qui vont être blessants. C'est de confronter, côtoyer leur propre incompréhension de la situation.
Oui.
Est-ce que parfois, il vaut mieux, pour une certaine période, couper des liens avec certaines personnes?
Je pense que c'est un choix très personnel. Je pense que ça dépend beaucoup de nos valeurs aussi, la culture aussi. Tout dépendant d'où on vient, hein, ça peut faire une grande différence. Personnellement, j'ai coupé beaucoup de liens avec des relations toxiques, des gens qui n'étaient pas aidants, parce que c'était un poids à traîner, en plus de toute l'énergie que je passais à m'occuper de mon fils. Donc, pour moi, ça a été vraiment primordial que je coupe ces gens-là de ma vie pour pouvoir me concentrer que sur la santé de mon fils et sur la mienne quand il me restait un peu de temps.
Ouais.
Mais c'est certain que c'est pas tous les gens qui sont capable de faire ça. Ça demande quand même pas mal d'énergie et de temps de couper des liens avec des gens proches, des fois la famille.
Et ça passe aussi par une forme d'acceptation.
Absolument, absolument, c'est ça.
Lorsque David est né, Nathalie, bon, il y avait différents problèmes de santé, paralysie cérébrale, épilepsie, déficience intellectuelle. Bon, est-ce que la prise en charge médicale des médecins était adéquate? Est-ce que vous vous sentiez bien encadré, bien accompagné?
Moi, j'ai eu la chance je ne sais pas si c'est une chance, mais en fait, moi, je le vois comme une chance qu'on m'annonce ça quand j'étais enceinte.
Mm-hmm.
Donc, avant même la naissance de mon enfant, j'avais une prise en charge de l'hôpital. Donc, on avait déjà des tests de cédulés très, très tôt, à quelques semaines de vie seulement. Là. Donc, moi, je vois ça comme une chance parce qu'on a fait le tour, les dépistages de toutes sortes de choses très rapidement. Ce que d'autres familles ne vont pas nécessairement avoir, ça va prendre des fois des mois avant qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Puis bon, tout ça repousse le diagnostic, l'aide qui vient avec. Donc, pour ma part, je trouve que j'ai été très chanceuse. On a été pris en charge par l'hôpital Montréal pour enfants. J'ai eu des excellents services, excellents soins, des médecins qui aujourd'hui suivent encore mon fils, qui sont très près de nous. Pas seulement en tant que médecin, mais on a appris à les connaître, ces gens-là. Puis, je peux dire qu'il y a des bonnes personnes qui travaillent dans le milieu de la santé.
Mm-hmm.
C'est sûr, des fois, qu'on va tomber sur des gens que c'est moins facile, là, qui sont là pour faire un travail point, mais il y a des très, très bonnes personnes là, qui sont prêtes à aider, au-delà de la tâche, je pense, qui sont pour faire. Là.
Oui. C'est quoi le profil des familles que vous rencontrez au sein de l'Étoile de Pachot?
C'est des parents de la région de Montréal, un peu aussi à l'extérieur, avec des enfants handicapés 0 à 18. Peu importe l'handicap, nous, on a décidé d'ouvrir nos portes. Souvent, que l'enfant soit autiste ou qu'il a une paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, on a besoin des mêmes services, des mêmes ressources. Donc, nous, on a décidé de tout inclure, tout le monde, finalement. Ce n'est que juste pour l'écoute qu'on se comprend entre nous. Donc, ça ressemble à ça. On existe depuis 2 ans et demi. On reçoit beaucoup, beaucoup, depuis la dernière année, des références du Children et de Sainte-Justine.
Mm-hmm.
Donc, des familles qui viennent tout juste d'avoir le diagnostic d'handicap ou de maladie grave pour leur enfant. Fait qu'on a beaucoup de familles là, avec des très jeunes enfants, là, en bas de 5 ans, finalement.
Oui, parce que c'est le point commun un peu de cet organisme, c'est de parler à des familles qui viennent de recevoir ce diagnostic-là. Donc, lorsque vous parliez de choc tout à l'heure, il y a également cette situation qui est un peu commune, c'est-à-dire de passer par le choc et par le deuil de cet enfant qui ne sera pas parfait.
Oui, oui.
Tous les parents souhaitent ça à quelque part.
Absolument. Puis les parents ont un grand, grand, grand besoin de parler de ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'on retourne à la maison avec notre poupon, puis on en parle à nos proches. On veut en parler à notre conjoint qui est peut-être pas toujours ouvert à en parler parce que les hommes réagissent pas de la même façon qu'une femme à travers ça. La famille vit son propre deuil aussi là-dedans. Donc, on ne retrouve pas l'écoute qu'on aurait de besoin. Puis moi, ce que j'ai trouvé très, très aidant, c'est quand j'ai commencé à aller des groupes de soutien au centre de réadaptation que mon fils fréquentait. Puis là, j'ai rencontré d'autres mamans qui vivaient la même chose que moi. Puis j'ai fait « Ah, je ne suis pas seule dans ce monde. » Ces gens-là m'écoutent, ils comprennent ce que je vis. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc, nous, c'était une des premières choses qu'on a mis sur pied, des groupes de soutien pour les parents. Puis
juste
ça fonctionne bien,
ça. Afin de pouvoir parler.
Oui, oui. Se retrouver en nous, briser l'isolement. Il y a quelque chose de très... je trouve pas le mot, là, entraidant d'être entre soi puis de savoir qu'on vit la même chose. Juste ça, c'est très, très aidant.
Et c'est quoi les grands sujets qui ressortent de ces grandes conversations-là?
On parle souvent des ressources qui sont disponibles. Ça, on en parle
ou pas.
Souvent. Ou pas, oui, bien sûr. Mais nous, notre but, c'est beaucoup de trouver des ressources et d'aider. Donc, on se concentre sur qu'est-ce qu'on trouve plutôt que qu'est-ce qui n'existe pas. On parle beaucoup du couple. C'est un sujet très, très récurrent, oui. La famille aussi, les commentaires qu'on peut avoir quand on va au magasin, des choses comme ça, les commentaires déplaisants. La détresse des mamans aussi, comment qui se sentent épuisées, qui n'ont pas d'aide, qui se sentent seules là-dedans.
Coupable.
Coupable, oui, la culpabilité, mais tout ça est très, très fort. Puis je pense que ça aide, encore une fois, justement, quand les mamans se retrouvent entre elles puis qu'ils écoutent les autres. Puis je vois les têtes, là, tu sais, qui font oui comme ça parce qu'ils écoutent l'autre puis ils comprennent. Ça pleure beaucoup. Puis c'est créer des beaux liens d'amitié entre ces gens-là.
Oui.
Puis c'est ce que j'aime beaucoup, justement, parce que ça permet après que nous, on n'est pas là tout le temps à 100 % à temps plein. Donc, eux, ils peuvent après consulter, tu sais, appeler cet ami-là, justement, puis avoir un soutien quand ça va pas, puis...
En ce qui a trait aux ressources qui existent, justement, Nathalie Richard, en ce qui a trait aux ressources financières, est-ce qu'il y en a?
Il y en a très peu. Je suis très mitigée là-dessus. Je trouve qu'on est chanceux d'être au Québec, au Canada et d'avoir autant. On est quand même un pays qui a beaucoup de richesses. En même temps, c'est pas assez ce qu'on reçoit, c'est clair. Moi, en tant que maman monoparentale, je reçois des sous du gouvernement. C'est clair que je vis en dessous du seuil de la pauvreté. Je vais le vivre toute ma vie. La situation de mon fils pendant des années a fait que je ne pouvais pas aller travailler parce que j'étais à son chevet.
60 crises d'épilepsie par jour,
par jour
à une certaine époque.
2-3 ans, oui.
On ne peut pas être au travail pour gérer ça. Là.
Non, c'est ça. Puis après, même quand il va bien, c'est très, très compliqué à gérer. Quand David revient de l'école en autobus, ça prend quelqu'un de spécialisé pour pouvoir s'occuper de tous ses soins-là. Donc, la vie demande une gestion vraiment extraordinaire là, pour que ça fonctionne.
D'autres ressources financières.
Oui, des ressources financières. Donc, tout ça pour dire que les ressources financières sont très maigres. Puis ce qui est choquant, puis que vous avez sûrement déjà entendu parler, justement, avec parents jusqu'au bout qui sont venus voir, c'est que si moi, admettons, je suis plus capable de m'occuper de David, puis qu'on décide, je décide, avec l'accord de papa, on le place, la famille d'accueil qui va s'occuper de David va pouvoir recevoir jusqu'à 55 000 $ par année pour s'en occuper. Pourquoi on ne me donne pas, moi, le tiers de ces sous-là pour m'occuper de mon propre fils?
Oui.
Pourquoi?
Et on n'a pas de réponse à
non,
ça.
Non, on n'en a pas de réponse.
Donc, d'une part, oui, on est chanceux d'être au Québec, au Canada, mais d'un autre côté, il y a de réelles déficiences par rapport aux services qui sont offerts aux familles.
Non seulement ça, il y a pas une... il manque une... je cherche le mot, pas une égalité, mais d'un CLSC à l'autre, c'est pas... les services ne sont pas les mêmes, les enveloppes budgétaires ne sont pas les mêmes. Si tu restes en région versus Montréal, tu n'auras pas les mêmes heures de répit à la maison, au même coût non plus pour l'employé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens, ce qui fait qu'au bout de la ligne, le répit qui est offert par le gouvernement, souvent, c'est très peu. Ça revient à très peu.
Et ça, c'est un besoin qui existe, le répit pour ces parents-là qui vivent.
C'est un besoin énorme.
Ouais.
En fait, je vous dirais que la clé pour avoir une qualité de vie et non de survivre, c'est d'avoir du répit.
Ouais.
Un, d'avoir du répit à l'extérieur de la maison, aller porter cet enfant-là assez souvent. Pour un 24-48 heures. Moi, j'ai la chance, je suis séparée, donc David va chez papa, donc je peux me ressourcer une fin de semaine sur deux. Mais aussi d'avoir du répit à la maison, parce que prendre soin de ces enfants-là, c'est à chaque instant. On a un enfant normal, 8 ans, va prendre ton bain, va laver tes dents. Oui, ça demande la supervision, mais David est comme un enfant de 1 an, physiquement même pas, là, c'est comme un enfant de 4 mois. Il faut changer couche encore, il y a des soins médicaux complexes à faire, donc c'est très, très demandant. On ne peut pas faire ça chaque jour. Ça, on s'épuise. C'est clair, ça.
Nathalie, vous l'avez dit à quelques reprises, vous êtes séparée. Impact sur la vie de couple. Absolument. Lorsque ce genre de diagnostic-là tombe. Est-ce que tout de même, de par vos observations, vous avez des trucs à donner peut-être aux familles qui nous écoutent pour conserver le couple vivant ensemble?
Je pense que je suis un peu mal placée pour parler de couple, comme je suis divorcée. On s'est divorcés. David était très, très jeune. Ce que je vois, par contre, c'est que c'est difficile pour tous les couples. J'ai cherché d'ailleurs un peu de statistiques là-dessus, puis il n'y a pas grand-chose au Québec pour donner des chiffres. On voit beaucoup à l'école que mon fils fréquente, Victor Doré, beaucoup de mamans monoparentales. Mais il y a quand même beaucoup de couples aussi qui restent ensemble. Ils restent ensemble souvent pour la facilité. Pas nécessairement parce que c'est un choix et que le couple est fort. Je vous dirais qu'à la clé de toute bonne relation dans la vie, la communication. Les parents, en fait, c'est ce que j'essaie beaucoup à travers les groupes de soutien d'apporter aux mamans. Il faut prendre soin de soi à la base. C'est primordial, mais il faut prendre soin de son couple aussi. Imposez-vous une sortie aux deux semaines. Un jeudi soir, vous allez voir un film, vous allez au restaurant. Il faut se l'imposer. On n'a jamais, jamais, jamais le temps dans notre horaire pour nous, pour aller au gym, prendre soin de soi, pour notre conjoint, pour les autres enfants. Si vous ne le mettez pas, vous ne l'organisez pas dans l'horaire, ça n'arrivera jamais.
Ouais.
Donc, il faut se l'imposer. Ça demande une discipline. C'est pas facile, mais il faut le faire.
Nathalie, on parle beaucoup des habiletés parentales en ce moment. C'est un sujet à la mode, et tant mieux, parce que si on peut avoir ce genre de discussion-là, de sensibilisation-là, mais ça devient quoi les habiletés parentales d'un parent qui vit avec un enfant qui est lourdement handicapé ou malade? Je veux dire, il faut que vous deveniez secrétaire, infirmière. À un moment donné, je me mets dans votre peau, il n'y a pas un moment où on se dit « mais moi, j'y arriverai pas ». Je veux dire, administrer tel soin ou penser à ça, pas oublier ça, je ne pourrai pas le faire.
Combien qu'on a d'heures pour cette question? Sincèrement, là, j'ai eu une petite montée de lait cette semaine, justement, là, les gens qui suivent la page L'Étoile de Pacho, puis j'ai écrit que c'était « too much ». Et par moments, c'est trop. C'est juste trop. On porte trop de chapeaux. Je suis souvent, à la fin de tout ça, une maman. Ça ne vient pas en premier.
Ouais, c'est ça.
Parce que oui, effectivement, j'ai dû apprendre à mettre un tube nasogastrique dans le nez de mon fils. J'ai dû apprendre toutes sortes de choses. Je ne suis pas une infirmière, moi. Mais j'ai pas le choix. C'est pour sa survie. Il y a tellement de tâches pendant une période aussi, la période 0-5 ans. Quand ils vieillissent, ça se passe un peu mieux. Là, mais le 0-5 ans... On a une période qu'on est des secrétaires pour nos enfants. On doit passer 10 à 15 heures, et je n'exagère pas, par semaine à remplir des papiers, à être au téléphone, à retourner des appels, à avoir des discussions qui peuvent durer des heures au téléphone avec un médecin, une infirmière, passer l'information.
Le comptable pour comprendre.
C'est une gestion de tous les instants. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Si, en fait, on n'est pas une personne organisée à la base, ça part mal.
Oui.
Ça demande beaucoup de qualifications. Ouais. Donc, on parle d'habileté parentale. C'est à l'extrême, je trouve, avec un enfant handicapé. On porte trop de chapeaux qu'on ne s'attendait pas à porter non plus. Puis on apprend là-dedans aussi. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas une recette, un petit livre qui nous dit « il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc, c'est difficile.
Est-ce que l'Étoile de Pacho est là pour peut-être lancer les grandes lignes directrices lorsque ce diagnostic-là arrive, de dire « OK, là, attendez-vous à ça, vous allez avoir 15 heures à mettre par semaine sur... »
Peut-être pas exactement comme ça, mais c'est sûr que quand on va faire des visites à domicile puis que l'enfant est vraiment un bébé naissant, on arrive, nous, avec un formulaire qu'on a créé qui parle de toutes les ressources qui ont besoin à la base. On fait le tour de tout. Puis c'est sûr qu'il y a le volet que moi, qui me passionne beaucoup, c'est de relations d'aide, d'écouter l'histoire de la famille, puis de si je peux apporter des trucs là-dedans, justement, puis de leur donner des petits conseils, de regarder la maison, y a-t-il quelque chose à faire pour que on vive plus facilement, que tu fasses moins de pas, que tu sois moins épuisé. Puis donc, on essaie de faire le tour, mais c'est sûr que il y a tant qu'on peut faire aussi. En même temps, le parent est en deuil. Donc, des fois, on aurait beau parler pendant des heures, le parent n'est pas apte à recevoir tout ça. Je pense qu'il y a une ouverture plus grande, vu que moi-même, je suis, puis mes collègues, on est des parents d'enfants handicapés. Donc, le parent est déjà plus apte, il y a une plus grande ouverture d'écoute, là. Mais il reste qu'on peut pas, je peux pas passer de l'information pendant deux heures, ça rentre plus à m'emmener.
Ça fait 2 ans et demi que ça existe, l'Étoile de Pacho. Vous avez reçu combien de familles, à peu près?
Dans la base de données, là, grosso modo, on a pas loin de 500 familles en tout et partout qui ont communiqué avec vous, que ce soit par Facebook, un email, en vrai, j'en oublie un, là, mais comme ça. Mais on les a pas toutes rencontrées, ces familles. On a rencontré à peu près une centaine en 2 ans.
OK. Vous refusez personne.
Et on a commencé cette année, malheureusement. Au début, on n'avait pas limité de région. Donc, on y allait wide open pour le Québec. Mm-hmm. Puis là, on n'a pas le choix. On répond plus à la demande, en fait, pour Montréal. On a des listes d'attente. Donc, on se limite à Montréal et aux alentours, Rive-Sud, Laval.
Mais en même temps, vous faites des bébés, Nathalie Richard, parce que parents jusqu'au bout, ce sont des mères qui sont passées par chez vous avant. Oui. Donc, que vous avez su inspirer et qui, après, ont continué leur cheminement. Ce que je retiens en terminant, parce qu'on doit se laisser déjà, Nathalie Richard, c'est cette résilience. S'il y a quelque chose que les parents d'enfants lourdement handicapés ou malades apprennent à travers tout le reste, c'est bien ça.
Oui.
Et vous en êtes un modèle. Très inspirant. Merci beaucoup,
merci
Nathalie Richard. Vous êtes fondatrice et directrice de l'Étoile de Pachot. On mettra le site web de votre organisation sur la nôtre.
Merci.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Paquette.
Infirmière en résidence, Jocelyne, et vous êtes là pour nous parler de quelque chose de plutôt désagréable.
Oui.
Le ronflement.
Oui.
Et c'est important d'en parler parce que le sommeil, c'est, je pense, une question en santé publique qui est souvent oubliée et qui a pourtant énormément d'impact sur notre santé physique et mentale.
Absolument.
Vous ne pouvez pas être en désaccord avec moi là-dessus.
Ah non. Quand vous manquez une nuit de sommeil ou que votre sommeil n'est pas réparateur, la journée se passe somnolente, elle se passe avec des manques d'attention, elle se passe avec vraiment des fois de la mauvaise humeur qui est due à ça. Mm-hmm. Ça change le comportement. Et si c'est tous les jours, ça peut mener vers une dépression.
Ouais.
Vraiment.
Le ronflement, c'est une cause d'un sommeil qui peut être moins réparateur. C'est dû à quoi?
Okay. Le ronflement, en tant que tel, c'est vraiment un relâchement des organes respiratoires supérieurs. La langue, le fond de la langue, le voile du palais, l'aluette. Et s'il y a des amygdales, elles peuvent être trop grosses. Il peut y avoir des polypes aussi. Mm-hmm. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en relâchant ces organes-là, ces tissus-là deviennent mous et vibrent au passage de l'air.
Mm-hmm.
Ça s'appelle le ronflement. C'est le bruit que ça crée par la vibration. Et on peut avoir des ronflements à peu près, je vais vous donner un ordre de grandeur en décibels.
Ouais.
45 décibels, c'est une voix ordinaire.
Mm-hmm.
Et jusqu'à 95 décibels, c'est le passage d'un camion.
Ah!
C'est vraiment désagréable. Et savez-vous quoi? Le ronflement n'est pas dangereux.
C'est pas dangereux?
C'est pas dangereux. Le ronflement en soi n'est pas dangereux pour la personne qui ronfle.
Va l'être peut-être pour...
Dérangeant pour les autres.
Voilà.
Absolument.
Mais le ronflement pourrait pas indiquer des soucis de santé chez la personne qui ronfle?
Pas le ronflement en tant que tel.
Ah, OK.
Chez l'enfant, par contre, il y a 10 % des enfants qui peuvent ronfler. C'est dû à des amygdales trop grosses.
OK.
Alors, on va aller les enlever
pour diminuer
le ronflement, enlever le ronflement. Mais tous les traitements au niveau du ronflement, on va y aller tantôt là, dans la description des traitements, n'ont pas de résultats à 100 %.
Mm-hmm.
Et c'est un processus de vieillissement également.
Okay.
Ce qui fait qu'à 60 ans, hommes et femmes vont vraiment développer des ronflements presque 45 %.
Mm-hmm. Pourquoi dit-on, Jocelyne, que des personnes qui sont en surpoids ont plus tendance à ronfler?
Parce que, à cause de la graisse qui est dans le cou, ça fait des pressions sur les organes et ça donne moins d'espace. Les personnes qui ont les coups trop courts également ou des coups trop larges également.
Mm-hmm.
Alors, c'est exact, c'est simple, mais les personnes qui font de l'obésité, c'est la graisse qui est répartie tout le long aussi de la cage thoracique. Alors, mais pour le ronflement, ça se situe ici au niveau des voies supérieures.
Est-ce qu'il y a des façons de prévenir le ronflement?
Oui.
D'abord, perdre du poids,
ben oui.
Si c'est ça la cause. Mais il y a des personnes minces qui ronflent aussi. Mm-hmm. Alors, l'alcool crée des renflements, va faciliter le relâchement des tissus mous et les sédatifs et les somnifères.
Mm-hmm.
Alors, ceux-là aussi vont faire un relâchement. Et les allergies non traitées.
Mm-hmm.
Les allergies non traitées, puis quand c'est trop sec également.
OK. La cigarette, est-ce que ça pourrait être une
absolument,
cause?
Absolument. Le mm-hmm. tabagisme, absolument. Mm-hmm. Ça va affecter et ça va créer une inflammation chronique au niveau des organes.
C'est quoi le lien maintenant, Jocelyne, entre ronflement et apnée du sommeil?
OK. Oui, quand on a un ronflement, surtout pour une personne qui est assez obèse, on peut aller voir le médecin pour vérifier si on fait de l'apnée.
Mm-hmm.
L'apnée, c'est un arrêt respiratoire.
Ah oui.
Qui mm-hmm. peut, c'est bloqué complètement. L'air ne passe pas. Alors, ça peut durer de 0 seconde à 35, 45, même une minute parfois.
Ah oui.
C'est beaucoup.
Mais oui.
C'est beaucoup. Alors, on ne le sait pas. La personne qui en fait de l'apnée ne le sait pas. Sauf que pendant sa nuit, son sommeil ne sera pas réparateur. Elle va s'éveiller souvent. Elle va aller aux toilettes souvent. Puis dans la journée, elle va avoir les signes que j'ai mentionnés tantôt. Elle va être somnolente, elle n'aura pas d'attention. Mm-hmm. Son comportement peut changer. Au niveau de ses humeurs, ça peut changer. Puis la vie devient infernale si ça continue et qu'il n'y a pas de traitement.
Oui. Maintenant, le temps file, les traitements pour remédier au ronflement.
Bon, les traitements pour l'apnée puis le ronflement, mm-hmm. c'est pas nécessairement la même chose.
Mm-hmm.
Alors aujourd'hui, je me limite au traitement du ronflement.
Très bien.
Et comme je disais en début, les traitements du ronflement ne sont pas efficaces à 100 %. Mm-hmm. Des fois 50 %, des fois les deux tiers, des fois 25 %. Alors il y a toute une panoplie de moyens. Et on traite les congestions nasales et les allergies,
mm-hmm.
première chose. Ils vendent en pharmacie une bandelette en plastique qui s'appelle Breath Right Nasal Strip, qu'on applique sur les voies nasales. C'est en élastique et ça ouvre les voies nasales. Ça prend 7 à 10 jours pour avoir un effet, ces bandelettes-là. Et ça n'a pas un effet à 100 % mm-hmm. non plus. Il y a les prothèses dentaires qui sont fabriquées chez les médecins,
mm-hmm.
chez les dentistes en particulier, qui vont avancer la mâchoire inférieure vers l'avant. Là, il y a les CPAP aussi.
Mm-hmm.
Alors, il faut passer des tests pour ça, puis savoir qu'on va porter un masque nasal. C'est aussi un traitement pour l'apnée.
Et une dernière, Jocelyne?
Une dernière, bien, il y a la chirurgie.
La chirurgie.
La fameuse chirurgie.
Ça, c'est vraiment quand on est rendu
oui.
jusqu'au bout. Et sinon, les bouchons, peut-être, si notre conjoint...
Pour notre conjoint, oui.
Ou on change de pièce,
On se fait notre chambre à nous.
Jocelyne Gadebois, toujours un plaisir. Merci
un
beaucoup.
Plaisir.
Et toujours trop rapide.
Ben oui.
Voilà.
Ben oui.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette. Au micro, on vous souhaite un très, très beau week-end. Profitez-en pour vous reposer. Puis nous, ben, on se reparle lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye tout le monde.